Donc, disais-je, 30% de la population française se dit sans religion, c'est-à-dire que bah, chacun est de son côté. Il y a Dieu de son côté, moi je suis de mien, mais on ne se parle pas, on n'a pas de relation. Et un tiers se dit athée. Dieu n'existe pas. Alors, c'est quand même la quatrième position derrière la Chine, le Japon et la République tchèque. J'ai vu ça sur Internet. Et c'est pour ça que je pense que David a écrit le psaume pour nous, au 20e, qui sommes du 20e, du 21e siècle, pour nous Français. Comment vivez-vous l'absence de Dieu dans notre société? Comment vous vivez ça pratiquement tous les jours? Notre frère vient du Congo Brazzaville, et là-bas c'est différent. La culture est différente. Là-bas on peut parler de Dieu. Là-bas c'est bienvenu. Là-bas on peut discuter. Mais ici, comment vivez-vous l'absence de Dieu dans notre société? Comment vivez-vous les émissions de Arte? Exceptionnellement, des fois sur Arte, il y a des sujets qui parlent du christianisme. Et moi, chaque fois que je ressors de ces émissions, j'ai assisté au massacre de mes convictions. Et j'en ressors tout triste. Vous avez peut-être aussi expérimenté le grand froid qui se crée autour de vous quand vous prononcez le nom de Jésus-Christ dans une conversation, une occasion ou l'autre. Hop, un grand silence. Ça casse l'ambiance. Pas facile de passer pour un niais, un illuminé, d'être vu comme un pauvre malheureux sous l'emprise d'une secte, ou bien encore comme une personne dangereuse avec ses convictions radicales. Écoutons Dieu ce matin. Écoutons Dieu nous défendre, ou plutôt, écoutons Dieu répondre à l'insensé qui dit, il n'y a pas de Dieu. C'est Dieu qui est en première ligne là. Nous, on est en seconde ligne et nous, on va simplement ce matin écouter les échanges et Dieu va répondre à ceux qui disent Dieu n'existe pas et Dieu va répondre à ceux qui vivent comme s'il n'existait pas. Laissons-nous encourager ce matin simplement. Il va pas y avoir d'application de choses à faire ou à mettre en pratique dans nos vies, mais simplement ce matin, les Anglo-Saxons, ils ont cette expression enjoy. Voilà. Apprécions. Alors on va lire le psaume 14. Je le lis dans la Bible Second, classique. Au chef des chantres, psaume 14 de David. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont perdu le sens. Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture et ils n'invoquent pas le nom de l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse et Israël se réjouira. Oh Seigneur, merci pour ce beau livre de psaumes. Merci parce que, à travers lui, tu nous fais du bien. Aide-moi, Seigneur, à bien m'exprimer ce matin. Aide-nous à bien écouter à être attentifs. Et Seigneur, que nous puissions nous réjouir en toi, tous ensemble, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il n'y a pas de Dieu, verset 1. L'insensé. Alors l'insensé, c'est le fou. Hein? Appelons les choses par leur nom. Le fou. Il dit dans son cœur, pas de Dieu. L'athéisme contemporain est la doctrine qui, ceux qui adhèrent à cette doctrine-là, ils nient l'existence de Dieu. Il n'y a pas de Dieu qui existe. Et cette idée est apparue très récemment au XVIIIe siècle pour s'épanouir jusqu'à présent dans notre pays en particulier. Étymologiquement, athée vient du grec qui signifie sans Dieu, athéos, sans Dieu. Et dans l'Antiquité, ce mot désignait les personnes qui vivaient sans faire attention aux dieux. Cela correspond à l'autre 30% de nos concitoyens qui se disent sans religion. Du temps de David, il était inconcevable qu'une personne dise qu'il n'y a pas de Dieu. Mais elle pouvait le penser dans son cœur, et c'est ce que dit David. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Dans son cœur. Ainsi, notre psaume parle tant aux 30% d'athées convaincus qu'aux 30% de ceux qui vivent sans se soucier de Dieu. Il doit y avoir un Dieu quelque part, mais c'est pas mon problème. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables et il n'en est aucun qui fasse le bien. Qui est-ce qui s'exprime ici? Pour vous, c'est peut-être évident. Pour moi, ça ne l'a pas été toujours. Est-ce David qui résume le développement qui va être donné par Dieu après? Certainement. Ou bien est-ce le fou? Est-ce l'insensé? Qui justifie son pas de Dieu en réaction à ce qu'il constate chez les gens religieux. Beaucoup de personnes athées vous diront que elles ont une très mauvaise expérience de la part de la religion dans leur jeunesse. Ils ont été blessés ou on leur a fait du mal à un moment de leur vie où ils consacrent que toutes ces personnes religieuses sont en fait des hypocrites. Et alors, ils ne vont pas chercher plus loin que de dire pas de Dieu. Bref, l'insensé dit, il n'y a pas de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu va répondre à cela? Et ça, c'est les versets 2 et 3. Je suis plus à l'aise dans mon livre. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y en a qui soient intelligents, qui cherchent Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Qu'est-ce que Dieu répond? Il n'y a pas d'homme bon, il n'y en a pas d'un pour racheter l'autre. Dieu est d'accord avec les athées qui critiquent les religieux. Tous les hommes, sans exception, sont corrompus. Et il rappelle au fou qu'il est lui et tous ses frères un homme déchu. En Genèse chapitre 3, en regardant le fruit défendu, le fruit du « Je fais ce que je veux », Ève le voyait précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est l'intelligence de la réflexion, c'est l'intelligence de la réussite. Mais c'est l'inverse qui se produit, dit Dieu. L'homme qui veut se débrouiller tout seul devient stupide. Il regarde pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Il n'y en a pas. que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, dit-il en Jérémie 9, 24, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Le bien dans le psaume, ici, c'est le bon, comme l'on trouve en Genèse chapitre 1, quand Dieu dit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon, c'était très bien. Il n'y a personne qui fasse le bien. Satan avait fait la promesse à Adam et Ève que le fruit défendu leur permettrait de connaître le bien. Vous connaîtrez le bien et le mal, vous serez comme Dieu. Hélas, si l'homme sait ce qu'est le bien et ce qu'est le mal depuis, il est incapable de produire le bien, il ne produit que le mal. Il a bien été trompé. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Dans sa lettre des chrétiens à Rome, l'apôtre va citer ce verset pour conclure son implacable démonstration. Tous les hommes sont pécheurs, ils sont privés de la grâce de Dieu. Romains 3, 23, on connaît bien ce verset. L'insensé dit, il n'y a pas de Dieu, et Dieu répond, il n'y a pas d'homme bon. Et il ajoute, mais il y a des fous dangereux. Verset 4. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture et ils n'invoquent pas l'Éternel. Il y a des fous dangereux. L'insensé perd la connaissance, jusqu'à la connaissance de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal. Et il ne se rend pas compte qu'il accomplit le mal et qu'il produit de mauvaises choses. Et le bilan de l'athéisme est tragique. Pour le XXe siècle, les bilans des régimes communistes athées s'élèvent à 100 millions de victimes. 100 millions de morts. Ça, c'est dans un domaine, mais pas que. Ravi Zacharia a exposé quatre conséquences de la vision du monde athée lorsqu'on pousse la logique jusqu'au bout. Il a dit, l'athéisme, la vision athée du monde, il n'y a pas de loi morale. Il n'y a pas de sens. Par rapport à l'émerveillement, la vérité, l'amour, la sécurité, tout ça perd son sens. Il n'y a pas d'espoir et il n'y a pas de restauration quand on a fait une faute. Allez jusqu'au bout de la logique athée et vous trouverez l'absurde. Mais le Seigneur pense ici d'abord à ses enfants. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont souvent besoin de dénoncer les injustices sociales. N'ayant plus la crainte de Dieu, les puissants dévorent les faibles, dénonce-t-il. Et dans les faits, les disciples de Jésus sont souvent les faibles, les défavorisés de ce monde. Considérez que, frères, que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de puissants selon ce monde, pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de nobles. 1 Corinthiens 1, 26. Alors si vous n'avez pas les moyens de lutter contre la puissance de frappe de l'athéisme dans notre société, comme j'y faisais mention tout à l'heure, on n'est pas tous en effet des Paul ou des C.S. Lewis, le fameux apologète du XXe siècle, est capable de renverser les raisonnements de tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Non, nous on n'a pas le niveau, on ne peut pas lutter. Mais Dieu le sait, Dieu est là. Dieu est là. Il y a des fous dangereux, mais Dieu est là. L'insensé dit « il n'y a pas de Dieu » et Dieu répond « il y a un Dieu devant lequel l'insensé tremblera un jour ». Au verset 5. « C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. » La race des justes. Mais si tous les hommes sont pervertis, d'où vient cette race des justes? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la première partie de la déclaration de Paul. Et il ajoute immédiatement, mais ils sont tous justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et en effet, la bonne nouvelle est que tout ce qui place dans le sacrifice de Jésus à la croix, sacrifice qui était à venir pour David et qui est accompli pour nous, ils reçoivent le pardon de leur faute pour le mal qu'ils ont commis. Et accepté par Dieu au bénéfice du sang versé à la croix, ils forment le peuple de Dieu racheté. Donc il y a une race des justes. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Jésus a dit, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspende à son cou une grosse pierre, une grosse meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Ceux qui mangent le peuple de Dieu en disant, il n'y a pas de Dieu, un jour ces gens auront Dieu face à face. Ils seront face à face avec le Dieu redoutable et avec son peuple. Avec son peuple qu'il pensait avoir dévoré. Voilà une consolation pour nous ce matin. L'insensé dit, il n'y a pas de Dieu. Et Dieu répond, il y a un Dieu devant lequel l'insensé tremblera un jour. Et il y a un Dieu qui, dès aujourd'hui, offre un abri à son peuple. C'est le verset 6. Il y a un Dieu de refuge. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Jeter l'opprobre, c'est couvrir de honte. L'espérance, ce sont les projets d'avenir qu'on fait, nos choix de vie. L'insensé aura beau s'acharner contre le faible, il aura beau critiquer la façon de penser de ce pauvre chrétien, cela n'aura aucun effet, car Dieu lui offre un refuge. Alors, peut-être qu'on vous est déjà tombé dessus à bras raccourcis, quand vous avez expliqué que vous préférez venir au culte le dimanche que rester tranquillement au chaud dans votre lit. Surtout quand il fait froid ici et qu'on se gèle l'hiver. Peut-être qu'on vous est tombé dessus à bras raccourcis. On n'a pas de jeunes gens dans la salle, mais si vous avez déclaré que vous voulez conserver votre virginité jusqu'au mariage, qu'est-ce que c'est ça? Peut-être qu'on vous est donné à bras raccourcis quand vous avez dit que vous donnez une partie de votre revenu au Seigneur. On vous est tombé dessus, mais finalement, ça vous a rien fait. Car la douce pensée du Seigneur dans votre cœur vous a gardé à l'abri de ces paroles blessantes qui voulaient volontairement vous humilier, vous couvrir de honte, qui voulaient s'acharner sur vous. L'insensé disant son cœur, il n'y a pas de Dieu. Mais nous savons qu'il y a un Dieu sauveur et un Dieu victorieux. C'est le dernier verset de notre psaume. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse et Israël se réjouira. C'est David qui semble reprendre la parole ici. Et il pose la question à laquelle il a déjà une réponse. Qui va nous sauver? Dieu va nous sauver. Qui va nous délivrer du péché? Dieu va nous donner la victoire sur le péché. David savait bien cela. En 1 Samuel 25, la Bible raconte l'histoire de Nabal. Le nom de cet homme signifiait insensé, fou. C'est le même mot qu'on trouve ici dans notre psaume. Et David savait bien ce qu'était un insensé, un fou. C'était un Israélite très riche et méchant. Les hommes de David avaient pendant toute l'année protégé les troupeaux contre les brigands, contre tous ceux qui voulaient les piller. Et quand l'année est passée, David envoie des émissaires pour demander une compensation pour tout ça, un petit quelque chose pour ses hommes. Il avait 400 hommes avec lui. Il faut les nourrir quand même. Et puis, Nabal lui répond avec le plus profond mépris. Et ce qui était de sa part un pur acte de folie. Car il ne pesait pas lourd à côté de David. Il ne pesait pas lourd. Et en effet, immanquablement, David se fâche et il décide, avec ses 400 hommes, faire une razzia, supprimer tout ce qui appartient à Nabal. Mais in extremis, vous connaissez l'histoire, Dieu intervient pour empêcher David de connaître ce grand mal à ce moment-là. Notre Dieu est un Dieu sauveur. Les athées sont très forts quand ils montrent du doigt les faillites des chrétiens. Je citais Ravi Zacharia tout à l'heure, et vous savez que il a chuté. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais Dieu nous délivrera un jour complètement et définitivement de tout mal. Ce sera ce jour-là notre plus grand jour de joie. Qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Nous connaissons le nom de Jésus. Ce nouveau David. L'insensé est dit, il n'y a pas de Dieu, il n'en est aucun qui fasse le bien. Et Dieu répond, il y a un Dieu sauveur qui rend juste son peuple, qui le protège et qui le délivrera complètement du mal un jour. Alors alléluia. Seigneur, oui, merci pour ce que l'athéisme ne fait pas le poids contre toi et ne le fera jamais. Tu nous gardes, tu nous protèges. Tu nous mets, comme dit David, dans des lieux élevés où il est impossible de nous atteindre. Tu nous as appelés, Seigneur, tu nous as purifiés, lavés, tu nous as enlevés de la fange du péché. Tu as tout payé pour nous. Tu nous as sauvés. Jésus-Christ a pris notre faute, la responsabilité de toutes nos mauvaises actions. Et merci qu'un jour on sera complètement délivré de cela. Merci qu'un jour tous ceux qui n'ont pas voulu de toi seront tremblant devant toi. Mais ce qui nous réjouit, c'est quand tu nous délivreras complètement du mal. Ce jour-là. Amen. Ce sera la joie. Béni soit ton nom.